Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Mythes et complots.
Deux aviateurs confirment dans leur projet traverser l'Atlantique. Deux aviateurs confirment dans leur projet ont quitté le Bourget.
Qu'arrivera-t-il du fameux oiseau blanc?
Donc, c'est
de l'oiseau blanc, dis-je.
Oui, c'est une chanson qui avait été faite dans les années 30 pour commémorer, en fait, ce vol historique de Nanjasser et Colly. Donc, dans notre histoire, juste avant la pause, nos bonhommes venaient de franchir l'Irlande à destination de Terre-Neuve, qui n'était pas encore, faisait pas encore partie de la Confédération. Et leur idée, bien sûr, était d'arriver, parce qu'on voulait passer le moins de temps possible au-dessus de l'Atlantique. Donc, on arrive au-dessus de Terre-Neuve, on longe la côte est du Canada, la Nouvelle-Angleterre, et l'idée de se poser éventuellement dans le port de New York. Mais on perd trace de Nanjasser et Colly alors qu'ils traversent l'Atlantique. Et comme ils n'ont pas de radio, bien sûr, on ne peut pas avoir de message radio, ont-ils tombé en détresse. Et là, on entre dans la zone le mystère et le mythe. Je te montre un document exceptionnel, Mathieu.
J'ai une page 8,5, c'est un gros document.
Voilà, tu vas voir au point numéro 3.
Oui.
Au matin du 9 mai, des gens au-dessus de Terre-Neuve ont rapporté avoir vu l'avion de Nanjasser et Colly. Ils avaient donc, si l'histoire est vraie, ils avaient donc réussi à traverser l'Atlantique. Donc, on a cette dame qui raconte « Ce matin du 9 mai, j'ai entendu un bruit, j'ai levé la tête et j'ai vu ce qui m'a semblé être deux énormes goélands blancs. » Donc, deux grandes ailes superposées l'une sur l'autre. Et là, bien évidemment, il y avait ce bronvissement dans l'air. L'appareil utilisé par Nanjasser et Colly était un hydravion de type Lavasseur, biplan, blanc, comme le décrit ses témoins. Et d'autres témoins vont se manifester tout le long de la côte est du Canada. Et en fait, on va même le rapporter au-dessus du Maine. Donc, okay. Le dernier ici qui nous parle de ce mystérieux avion blanc, ce biplane blanc, fait référence à un avion au-dessus du Maine. Mais malheureusement, on ne retrouvera jamais de débris de l'avion. Et bien sûr, toutes sortes de mythes et de légendes se sont entourées de ça. Certains disent que Nanjasser et Colly auraient tenté de rejoindre l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, juste au sud de Terre-Neuve. Mm-hmm. Se serait crashé dans l'océan à ce moment-là parce que leur avion était en détresse. On a un témoin d'ailleurs qui parle avoir vu des ailes blanches dans le ciel avec un panache de fumée. Était-ce l'appareil de Nanjasser et Colly? D'autres gens prétendent avoir vu un avion de la garde américaine tirer sur un avion blanc. Alors, était-ce la garde américaine qui aurait fait feu sur... qui pourrait abattre l'appareil? Parce qu'il faut dire que l'avion de Nanjasser et Colly peut être un mauvais choix. Mais le logo des pilotes était une espèce de cœur noir avec une tête de squelette et des os croisés. Le symbole utilisé par les pirates. Est-ce que un pilote de la garde nationale américaine qui surveillait la côte Est aurait vu l'appareil et aurait vu ce symbole-là comme étant une espèce de défi? Avait-on affaire à un avion pirate? C'est quand même douteux parce que quand même le vol de Nanjasser et Colly avait fait la manchette. Ici même au Canada, au Québec, le journal La Presse, qui publiait souvent des nouvelles en, disons, un peu en différé, avait annoncé pour 17h l'atterrissage de Nanjasser et Colly dans le port de New York. Ils se sont ravisés le lendemain en disant, mauvaise nouvelle, c'est pas ça qui s'est produit. Donc, on a entrepris de faire des recherches, on n'a jamais retrouvé les débris de l'appareil et le mystère sur la disparition de Nanjasser et Colly reste entier aujourd'hui. Ont-ils réussi? S'ils avaient réussi, si on avait pu démontrer qu'ils avaient réussi à franchir l'Atlantique dans un seul coup d'aile, peut-être que Lindbergh, deux semaines plus tard, n'aurait pas entrepris son fameux vol sur le Spirit of St. Louis.
C'est pour ça que la théorie qu'il aurait réussi puis il aurait disparu dans l'anonymat, c'est un peu farfelu, non?
Oui, absolument.
Il y avait tout intérêt, eux, à être connus, puis ils le faisaient pour ça, d'ailleurs.
Bien sûr. Donc, évidemment, s'ils ont eu un pépin en chemin, ils se sont peut-être écrasés et, ils sont décédés et on n'a jamais retrouvé les débris de l'appareil. Bon, fait que, voilà, c'est un peu le mystère qui reste entier sur qu'est-il advenu de ce célèbre oiseau blanc qui a quitté l'aéroport du Bourget le 8 mai 1927.
Nous sommes le 11 mai 1950, il est 19h45 dans McMinnville.
À McMinnville, en Oregon. Une petite ville qui compte à peu près 30 000 habitants aujourd'hui. Et là, donc, tu t'imagines la situation. On est ce 11 mai 1950, on est dans la zone rurale. On est dans la ferme de la famille Trent et Madame Trent est à l'extérieur en train de nourrir les lapins. Et on peut imaginer la scène, elle lance un cri à son mari du genre « Viens donc voir ça, mon bé! »
Elle parlait comme ça.
Et là, M. Trent sort à l'extérieur et il observe avec sa femme, elle lui pointe dans le ciel un objet qui ressemble, ils vont le dire plus tard, ça ressemblait à un enjoliveur de roues avec une espèce de tourelle par-dessus. Et ce Paul Trent a la vivacité d'esprit de se rappeler que dans le camion, il a son appareil photo. Je rappelle, on est en 1950. Donc, il va dans sa camionnette, sort son appareil photo et va tirer à 30 secondes d'intervalle deux clichés de cet objet, alors que l'objet va survoler la ferme. Je t'ai amené ici les photos de ce fameux Paul Trent, si tu veux y jeter un coup d'œil. Et les gens qui nous écoutent à la maison n'ont qu'à taper Paul Trent UFO OVNI et vous allez tomber sur ces photos. Donc, notre Paul Trent prend ces deux photographies.
Photo assez claire quand même.
Oui, assez claire. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on est à une époque où les films se développent. On est sur de la pellicule. Donc, Paul Trent ne fait pas développer son film immédiatement. Il va attendre une semaine. C'est la fête des mères. Il va attendre de compléter le film. Il va le faire développer. Paul Trent est persuadé qu'il a photographié un prototype de l'armée américaine parce que c'est le tout début de l'ère des soucoupes volantes et ce n'est pas très répandu comme croyance. Alors, il croit avoir photographié un prototype de l'armée américaine, va garder les photographies chez lui, va les montrer à quelques amis et c'est là qu'éventuellement, en le montrant à un membre de sa famille, celui-ci lui dit « Écoute, j'aimerais les montrer à mon banquier. » Alors, Trent lui... le type part avec les deux photographies, les montre à son banquier et écoute, les photographies, quelques jours plus tard, vont faire la une du journal local et ensuite, elles vont même être reproduites dans le Life magazine et éventuellement, en 1967, il y a une commission d'enquête qui est parrainée par l'armée de l'air américaine. L'armée avait déjà un projet d'enquête sur les ovnis qui s'appelle le projet Blue Book et en parallèle à ça, ils avaient lancé une sorte de commission civile qui était endossée par l'Université du Colorado, qu'on a appelé le projet Colorado. Et le projet Colorado a étudié 59 cas d'observation d'OVNI sélectionnés par l'armée. Et parmi ces cas-là, il y avait les fameuses photographies de Paul Trent, dont on avait retrouvé le négatif. Et on a analysé les images. Et crois-le ou non, on n'a jamais trouvé d'explication à ces images-là. Donc, on a analysé le négatif et dans le rapport soumis par l'armée de l'air américaine, il est clairement mentionné que ces photographies répondent exactement à tous les critères de ce à quoi on devrait s'attendre pour un objet d'à peu près 30 mètres de diamètre pour une épaisseur de 4 mètres. C'est quand même beaucoup. Là. Gros, on parle d'un objet, là, si on parle en pieds, là, on parle d'un objet de 100 pieds de large sur à peu près une vingtaine de pieds de haut. Là. Donc, c'est un immense engin. Et parce que l'objet, quand la première photo, l'armée a déterminé qu'il devait être à peu près à 1,5 km de l'observateur. Et l'objet est relativement grisâtre. Il se fond un peu sur le ciel. Et lorsqu'il est plus près, évidemment, il est beaucoup plus clair. Un peu exactement le même mécanisme que si on regarde un avion au loin qui se rapproche. Plus il se rapproche, plus les contours deviennent précis, plus les couleurs deviennent vives. Et c'est exactement ce qui se passe avec les photographies de Paul Trent. On n'a jamais pu démontrer qu'il y avait eu trucage. Et ce qui est amusant, c'est que même aujourd'hui, on est en 2018, et malgré l'avènement de technologies, les téléphones portables, on peut prendre des photographies à n'importe quel moment maintenant. C'est à la portée de tous. Et pourtant, parmi les 5 meilleures photographies d'OVNI jamais prises depuis les années 40, c'est encore les photographies
celle de 1950.
C'est encore les photographies de Paul Trent qui dominent l'ensemble des photographies d'OVNI. Peut-être parce qu'elles ont eu aussi cette caution de l'armée de l'air américaine qui avait reconnu l'authenticité des clichés. Donc, c'était ce 11 mai 1950 qui a fait que on a marqué d'une pierre blanche dans l'histoire des OVNI.
Vous serez en conférence, M. Page, le 19 mai prochain.
Oui. Pour parler des véritables dossiers X. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dossiers X? J'ai décidé
pas
de
Stormy
choisir...
Daniels. Là.
Non, c'est pas Stormy Daniels. Ça, c'est les triple X.
Okay.
Dans mes archives, j'ai choisi... J'avais déjà fait ça il y a quelques années. Les gens avaient adoré ce concept-là. J'ai pris dans mes dossiers des archives sur lesquelles de véritables forces de l'ordre ont enquêté. FBI, CIA, gendarmerie. Et je présente ces dossiers-là au public avec les documents d'archives des services d'investigation professionnelle.
Sur ta page web,
sur ma page web, le www.christianpage.ca.
Christianpage.ca, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Mathieu Beaumont.
J'aime mieux ça.